Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, avant le confinement, Marc Fernandez était venu en studio, ici, à RFI, nous parler de son livre « Le nouveau western » paru chez Paulsen. Formidable récit de voyage où il raconte ses aventures géographico-littéraires en Espagne sur les traces d'un célèbre guerrier qui a donné lieu à un personnage de théâtre, le Cid. Cette émission n'avait pas pu être diffusée, la voici donc. Mais avant de l'écouter, je vous propose de retrouver tout de suite par téléphone l'écrivain. Bonjour Marc Fernandez.
Bonjour Catherine.
Il y a un an, quasi jour pour jour, vous étiez sur votre vélo à traverser l'Espagne, périple de plus de 900 km qui allait vous permettre d'écrire le nouveau western. Et aujourd'hui, vous sortez comme nous tous de cette longue période de confinement sans exercice sportif ou en tout cas pas de cette intensité. Comment se sont passés ces deux derniers mois pour vous ?
Ah bah c'était un petit peu bizarre, mais j'imagine comme tout le monde. Et vous avez raison, ça fait un an pile que j'étais sur le vélo. Il y a un an pile, j'étais quasiment arrivé à Valence. Il me restait deux étapes à faire. Donc je peux vous dire, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se retrouver un an après entre quatre murs. Mais bon, ça a été. On a géré comme tout le monde, je crois, l'école à la maison avec les enfants. Et puis un petit peu d'exercice quand même, puisque du coup, après ce voyage, j'ai pris goût au vélo. Et pendant le confinement, j'ai pas pu m'en passer. Donc j'ai fait l'acquisition d'un vélo d'appartement. Donc voilà, je faisais une heure d'exercice par jour sur le vélo.
Donc, vous n'avez pas rongé votre frein?
Non, voilà, j'ai quand même pédalé. Alors, j'ai pas beaucoup bougé, mais j'ai pédalé quand même.
Comme on va l'entendre dans un instant, Marc Fernandez, vous êtes aussi d'origine espagnole et une grande partie de votre famille y vit toujours. Quelles sont les nouvelles du pays qui a été lourdement touché par la pandémie ?
Oui, c'est un des pays qui a été le plus touché avec l'Italie et puis avec nous, avec la France. Mais ça va. Enfin, moi, ma famille, une partie de ma famille est à Valence et une autre partie est dans le nord, en Galice. C'est pas les régions les plus touchées. C'est vraiment, ça a vraiment été très fort sur Madrid et Barcelone. Mes parents y sont puisqu'ils ont eu la très bonne idée de partir là-bas début mars en vacances. Donc, ils n'ont pas pu rentrer. Ils sont restés à Valence. Mais ça va. Je crois que le confinement a été plus sévère qu'ici. Plus sévère qu'en France et beaucoup mieux suivi, j'ai l'impression. Les enfants, par exemple, ils ne sont pas sortis en Espagne pendant 6 semaines. Il n'y a pas d'école, il y a eu l'école à la maison. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux. Les chiffres qu'on a sont meilleurs et les gens commencent à être un petit peu déconfinés. Alors, c'est un petit peu différent qu'en France. Il y a des horaires en fonction de la tranche d'âge. Les personnes âgées peuvent sortir, je crois, de 10h à midi et de 19h à 20h. Les enfants sur d'autres horaires pour qu'il n'y ait pas un trop grand mélange de population et qu'il n'y ait pas trop de monde dans la rue.
En France, malheureusement, les librairies ont dû fermer et n'ont commencé de réouvrir qu'à partir du 11 mai. Comment ça se passe en Espagne ? Est-ce qu'à votre connaissance, les librairies sont redevenues accessibles au grand public ou pas ?
Alors, je crois que c'est en fonction des régions et des villes, je crois qu'elles recommencent tout doucement à réouvrir également, un peu comme ici. Mais je crois que ça va être la même chose en France, en Espagne et dans bien d'autres pays. Elles n'étaient pas considérées comme évidemment un commerce essentiel, donc elles ont été obligées de fermer. Et je crois que le secteur éditorial va avoir du mal à se relever de cette crise qui va être un petit peu compliquée pour les éditeurs ici comme là-bas, je pense.
L'Espagne que nous saluons donc et où nous partons tout de suite grâce à la magie de la radio, à la rencontre et à la découverte d'une des figures mythiques de l'histoire, le Cid, immortalisé par la pièce de Corneille qui racontait les amours de Chimène et de Rodrigue. Rodrigo Díaz de Vivar, de son vrai nom, qui a bel et bien existé. Chevalier du XIe siècle, il a été l'un des guerriers les plus valeureux de son pays, où il est d'ailleurs devenu une légende, héros du poème épique El Cantar de Mio Cid, aussi célèbre que Don Quichotte, à ce détail près que c'était bel et bien un homme de chair et de sang, figure centrale de votre livre, donc Marc Fernandez, le nouveau western. Vous qui avez parcouru en 12 jours le même chemin pris à cheval par Rodrigue plus de 900 ans plus tôt, de Burgos à Valence, en route.
Esperanza.
Bonjour Marc Fernandez.
Bonjour Catherine.
Vous êtes donc l'auteur de ce livre et puis surtout l'auteur de ce périple, de ce défi extraordinaire que vous vous êtes lancé. Mais pour quelle raison précisément vous êtes-vous lancé dans cette aventure qui relève autant de l'exploit sportif, du pèlerinage historique que du parcours familial personnel ?
Pour tout vous dire, je me suis posé cette question plusieurs fois quand j'étais sur la route, en maudissant les éditrices avec qui j'avais discuté de ce projet. Ça part d'une blague. Au départ, vraiment, je connais les équipes de Paulsen, les éditions Paulsen, et elles me parlaient, t'as pas une idée de voyage ? Et je venais de lire un article sur le chemin du Cid, et je leur dis en blaguant, je vous fais le chemin du Cid à cheval. Et après, j'ai dit non, mais c'est une blague. Et on a réfléchi un petit peu. À cheval, c'était un peu compliqué. Ça aurait été absolument génial de le faire à cheval. Mais 900 km à cheval, ça aurait été un petit peu difficile à organiser. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un GR, donc un sentier de grande randonnée, qui passait sur la route du Cid et qu'on pouvait également le faire en VTT. Donc on a décidé de changer de monture et le cheval est devenu un VTT et on est parti là-dessus. Alors après, il y avait aussi des raisons personnelles. Avec le nom que je porte, vous dites bien que j'ai des origines espagnoles et ma mère est de Valence. Donc Valence, c'est quand même la ville du Cid, puisqu'il a été le prince de Valence. Et du coup, il y avait aussi ce côté un peu personnel au-delà du défi physique. C'est un vrai défi physique, effectivement, mais il y avait la partie personnelle et puis la partie historique de faire découvrir ce personnage qu'en France, on pense de fiction, mais qui a bel et bien existé et qui est un vrai mythe en Espagne. En
fait. Précisément, est-ce que vous voulez bien, Marc Fernandez, nous dire pourquoi Rodrigo Díaz de Vivar est un personnage aujourd'hui iconique et en quoi est-il plus spectaculaire d'ailleurs que d'autres guerriers espagnols ?
En fait, il est un héros de papier en Espagne, comme en France avec le Cid, avec le texte que vous avez cité, El Cantar de Mio Cid, qu'on traduit par le poème du Cid, qui est comme la chanson de Roland, en fait, qui est le premier grand texte littéraire espagnol qu'on étudie à l'école, comme Don Quichotte. Tous les enfants espagnols ont lu le poème du Cid. Il y a ça, et en même temps, c'est un personnage réel, avec toute une histoire derrière, de l'Espagne du XIe siècle, des rois catholiques, mais aussi des musulmans, des royaumes musulmans, puisqu'à l'époque, l'Espagne était divisée en royaumes catholiques et en royaumes musulmans, qu'on appelait les taïfas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis son épée au service du roi catholique, qu'il a banni. Il a mis son épée, après, au service d'un roi musulman. Et après, il a envoyé paître un petit peu tout le monde et a dit « Vous savez quoi ? Moi, je suis assez fort et j'ai une armée. Je vais me mettre à mon compte. » Donc, c'est aussi le premier mercenaire de l'histoire espagnole, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était ce côté... c'est un vrai personnage de polar, en réalité, pour moi.
Un domaine que vous connaissez bien, puisque vous-même êtes auteur de romans noirs et éditeur de romans noirs également.
Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ce côté polar dans le livre aussi, ouais.
Donc un personnage de roman noir différent du Cid de Corneille qui lui raconte un autre Rodrigue avant le vôtre, j'ai envie de dire, quand il tombe amoureux de Chimène et qu'il doit tuer son futur beau-père, d'où le fameux dilemme cornélien devenu depuis une expression courante. Donc c'est pas tout à fait le même. Et puis il y a eu la querelle du Cid parce que on soupçonne Corneille d'avoir sans doute plagié un texte espagnol.
Oui, un texte espagnol dont j'ai oublié le nom, évidemment. Et oui, en fait, il avait, sur les conseils d'un ami, il avait lu ce texte espagnol et il s'en est fortement inspiré. Ce qui avait créé une polémique en France à l'époque où il avait été très critiqué pour plagiat. Et il y avait une autre chose, on était en pleine guerre à l'époque où Corneille publie sa pièce de théâtre. On était en pleine guerre franco-espagnol. Donc certains critiques disaient, mais en plus, il nous fait un texte un peu copié sur un texte espagnol et en plus qui parle de l'Espagne avec qui on est en guerre. Donc ça avait été assez compliqué pour Corneille à l'époque et c'est Richelieu qui a mis le holà en disant maintenant vous arrêtez, la pièce est très bien et voilà, ça s'arrête là. Donc il y a aussi, ouais, il y a pas mal d'affaires comme ça autour de ce personnage en fait.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie histoire d'amour entre Rodriguez et Chimène. Oui. Et quand on le découvre avec vous, Marc Fernandez, il est déjà donc marié, il est père de deux enfants, bientôt trois, hein. Petit Diego, prénom qui vous est également familier. Donc, Rodrigo est une légende espagnole, comme en témoigne cette route que vous avez prise, qui est bien la route officielle du Cid, ouais, avec des étapes réglementées, un laissez-passer officiel, que vous faites tamponner d'ailleurs à chaque destination. Donc, il y a bien aussi cette notion de pèlerinage.
Complètement. Bon, en Espagne, il y a évidemment le chemin de Saint-Jacques qui est embouteillé aujourd'hui, on dirait le périphérique parisien. Donc, si vous avez envie de grands espaces et d'être tranquille, allez de l'autre côté et vous faites le chemin du Cid qui est, oui, c'est une route pour les passionnés de randonnée. On peut la faire à pied aussi, effectivement. Elle est très bien balisée et puis elle nous plonge dans une Espagne qu'on connaît pas, en fait. Moi-même, je suis espagnol aussi et c'est des endroits que je n'avais jamais vus. C'est ce qu'on appelle l'Espagne vide.
Oui.
Espagna vacía, c'est une diagonale, une espèce de diagonale du vide de Burgos à Valence, donc c'est du nord-ouest au sud-est, qui a, je crois, la densité de population la plus faible d'Europe au kilomètre carré. Et pour vous dire, je suis parti avec un guide, il y a des jours, les seules personnes qu'on voyait, c'était le matin en partant et le soir en arrivant, on ne croisait pas âme humaine. C'est ce qui fait du bien aussi parfois.
Et en même temps, dans une nature extraordinaire, d'ailleurs d'où le titre Le Nouveau Western, parce que vous avez vraiment l'impression d'être, je sais pas, dans un spectacle de montagne.
C'est un paysage absolument étonnant. Oui, c'est pas pour rien qu'on l'a intitulé comme ça, Le Nouveau Western. C'est des paysages de western. On avait l'impression par moments d'être aux États-Unis, au milieu du Grand Canyon. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, à l'époque, les westerns, spaghetti, étaient tournés dans cette région-là. La route passe à quelques kilomètres d'un endroit bien connu des fans de western, Le Bon, la Brute et le Truand, la scène finale du cimetière. Ce cimetière est encore là. C'est dans la région de Burgos. Sad Hill est encore là, on peut le visiter. Moi, j'ai pas réussi parce que on avait beaucoup de kilomètres à faire et il fallait faire un détour. On s'est dit, bon, on va pas y aller, mais j'ai un grand regret et je pense que moi, j'y retournerai juste pour aller voir ce cimetière. Alors, pour l'anecdote, Clint Eastwood est venu tourner là avec Sergio Leone, voilà. Le cimetière, ce sont des appelés militaires qui l'ont construit. Et aujourd'hui, il est complètement rénové. Il y a 15 000 croix qui sont là, comme dans le film. Et c'est une association qui s'est créée pour le réhabiliter. Et vous pouviez adhérer à l'association pour la modique somme de 15 €. Vous adhériez et vous avez une croix à votre nom. J'ai voulu le faire, malheureusement, c'est parti comme des petits pains, donc j'ai pas pu avoir ma croix. Mais voilà, c'est des paysages. Enfin, moi, j'avais l'impression que Sergio Leone allait débarquer, que Clint Eastwood allait passer, que après, avec la fatigue, on a des visions par moment. J'ai cru voir Lucky Luke un moment. Enfin, voilà, c'est Blueberry, c'est des paysages. On a l'impression d'être aux États-Unis, très très loin de l'Espagne, en fait.
Et d'ailleurs, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est presque aussi une trilogie qui pourrait correspondre à Rodrigo. On se demande dans quelle mesure, effectivement, c'est un chevalier valeureux ou c'est un véritable mercenaire qui profite de sa force et de son armée pour rançonner les villages qu'il traverse et se faire un butin comme faisaient les mercenaires. Ça, c'est une question à laquelle vous ne répondez pas, et tant mieux, parce que c'est aussi l'épaisseur et la complexité du personnage.
Oui, puis c'est difficile de retrouver des documents de l'époque. Il y a quelques documents, mais Le Bon, la Brute et le Truand, ça le correspond tout à fait à sa personnalité. Il était fidèle, c'est un homme fidèle. Il se fait bannir par le roi pour une histoire un peu idiote, à vrai dire, de vengeance. Il va attaquer un château qui a été pillé par les musulmans, et voilà, ça se passe très mal, et le roi le prend mal, et le bannit, et lui fait quitter son royaume. En même temps, un truand aussi, parce que quand il quitte son royaume, il a plus d'argent et il monte une arnaque. Enfin voilà, on peut le dire comme ça, c'est le premier escroc espagnol. C'est un super filou, il fait croire à des usuriers que son trésor est dans des coffres, il fait remplir ses coffres de sable en leur faisant croire qu'à l'intérieur il y a de l'or et il leur donne le coffre soi-disant son trésor. Engage et ils récupèrent de l'argent. Après, quand ils ont ouvert le coffre, ils se retrouvent avec des pierres et du sable dedans. Donc c'est aussi, oui, effectivement, ça lui va bien. J'avais pas pensé à cette comparaison, mais ça lui va parfaitement bien.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec une traversée de l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui à cheval et à vélo à presque 1000 ans d'écart avec notre invité Marc Fernandez qui s'est donc lancé le défi de suivre la route du Cid, ce guerrier espagnol dont on a parlé tout au long de cette première partie qui est devenu une icône dans son pays et qui est connu à l'étranger par différentes versions qu'il a inspirées au théâtre, cinéma, voire petit écran. Un voyage donc raconté dans ce livre intitulé Le Nouveau Western aux éditions Paulsen. Mais à vous lire, Marc Fernandez, on se rend compte que c'est également une épreuve physique. Et pendant ces 900 kilomètres, vous souffrez, on souffre aussi avec vous, on compatit, vous avez les mains presque en sang à cause du guidon que vous serrez, les mollets en feu, le corps courbaturé quand vous vous arrêtez le soir. Bref, dans ces conditions, est-ce que vous aviez encore envie d'écrire, de prendre des notes juste avant de vous écrouler dans votre lit?
Alors, l'envie, oui. La possibilité sur la fin, non. En fait, je pouvais plus tenir un stylo. J'ai les mains, alors ça c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé, mais j'ai eu les mains blessées, j'ai eu une inflammation des tendons, des doigts. En fait, parce que 10 heures de VTT par jour, ça fait mal au bout d'un moment, quand on n'a pas l'habitude en plus. Donc j'enregistrais. Le soir, j'avais un petit dictaphone et je pouvais plus prendre de notes. Et c'est très perturbant, en fait, pour un auteur de plus pouvoir écrire dans son carnet. D'autant que moi, j'ai une mémoire visuelle, donc il faut que je voie les mots sur le papier. Et du coup, j'étais obligé d'enregistrer. L'envie, ouais, elle était là. Après les trois premiers jours étaient les plus difficiles, en fait. Mon guide est un spécialiste du VTT. Enfin, voilà, il m'avait dit, si on passe le troisième jour, il n'y a aucun problème, on arrivera au bout. Je vous avoue que le premier soir, mon côté polar est ressorti quand on est arrivé à notre étape, après 72 kilomètres, j'étais littéralement mort. Mais mort, j'avais mal partout, je pouvais à peine descendre de mon vélo et j'avais qu'une envie, c'était tuer mon guide et jeter le vélo et appeler un taxi, dire « amène-moi à l'aéroport le plus proche, je m'en fiche ». J'ai appelé ma femme pour lui dire « je crois que ça va être un livre sur l'échec, je ne vais pas arriver au bout ». Il m'a rassuré, il m'a dit « non mais le corps est une machine, tu vas voir, tu vas t'habituer, tu vas avoir un peu mal, mais ça va passer ». Et effectivement, le quatrième jour, mais alors comme par enchantement, plus de courbatures, mais cette douleur aux mains qui m'a pas lâché jusqu'à l'arrivée, qui a été assez handicapante parce que j'arrivais même plus à enlever mon casque, à enlever mes chaussures. Mon guide était limite obligé de me couper ma viande le soir au dîner. J'avais l'impression d'être un enfant. Mais voilà, après c'est les aléas du défi physique.
Mais c'est une expérience intéressante de l'écriture justement parce que j'imagine que c'est la première fois que vous écriviez entre guillemets dans ces conditions. D'habitude, vous avez votre documentation, vous êtes à votre bureau, derrière votre ordinateur, je ne sais pas, ou à un café. Mais là, donc 10 heures de vélo et le soir, la perspective de faire quelque chose de ce matériau physique pour en faire un livre.
Ouais, c'était pas évident. Alors après, comme j'ai été journaliste dans une autre vie et où j'ai fait pas mal de reportages, je pense que ça m'a aidé le côté être en live. Mais là, c'était pour un livre, comme vous dites. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je m'étais pas mal documenté avant de partir. J'avais le texte du poème épique avec moi, parce que vraiment la route suit le texte. J'avais également le site de Corneille. Bon, je l'ai ouvert une fois, histoire de dire que je l'avais ouvert, pour être tout à fait honnête. Mais c'est une expérience qui est très troublante, en fait. Et d'autant que plus on avançait, moins j'arrivais à écrire physiquement avec un stylo, donc plus fallait que j'enregistre avec un dictaphone, et c'est plus ça qui m'a perturbé, en fait. Et puis, il y avait le côté qui est super intéressant de se laisser aussi porter, parce qu'on voyait pas grand monde, mais on faisait quand même des rencontres, et c'était des rencontres plus sur l'histoire de l'Espagne aussi, quoi. Enfin, on est arrivé devant une fosse franquiste, donc on est bien loin du Cid. Mais voilà, moi, avec mon histoire familiale, mon grand-père qui a fui Franco, me retrouver devant une fosse franquiste, c'était troublant aussi. Un bar qui est resté dans son jus des années 50, où le propriétaire nous ouvre la porte. Et le premier truc que je vois, c'est un portrait de Franco. Il y avait aussi toute cette partie qui était très troublante. Et je pense que c'était encore plus troublant parce qu'il y avait l'aspect physique derrière. Enfin, la fatigue accumulée des kilomètres. On n'a pas forcément toute sa tête au finish quand on arrive le soir après 100 kilomètres de VTT. Et ouais, c'était hyper enrichissant.
Mais ce qui est vrai, c'est... je pense qu'on peut s'arrêter un instant sur ce point, Marc Fernandez. C'est que tout en refaisant le chemin... poétique et physique du Cid, vous allez à la rencontre de cette Espagne contemporaine, cette Espagne du vide, qui est en même temps toujours marquée par la dictature de Franco. Et ça vous amène aussi à réfléchir sur la tolérance entre les peuples, parce que Rodrigo, pour le coup, lui, il a essayé, peut-être que ça lui était favorable, mais peu importe, en tout cas que les communautés religieuses musulmanes et chrétiennes coexistent dans le plus grand pacifisme. Donc là, on est dans une Espagne qui à la fois revendique un héros très tolérant, mais dont certains restent fidèles à un dictateur qui ne l'était pas tolérant pour le coup.
C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce personnage, c'est ce paradoxe. Franco a fait du Cid un héros de la Grande Espagne, le héros de la reconquête face aux musulmans. C'est complètement faux historiquement, puisque la reconquête a démarré près de 100 ans après la mort du Cid, enfin de Rodrigo. Et en même temps, Rodrigo, le vrai, le chevalier, il a beaucoup fait pour la paix entre les peuples et entre les religions. Certes, il a travaillé pour des catholiques, il a travaillé pour les musulmans, mais quand il prenait une ville, par exemple, il prend Valence, tenue par les musulmans à l'époque, il massacre pas tous les musulmans et il n'impose pas la religion catholique. Il demande à ses hommes de tolérer la religion musulmane de leurs ennemis, donc il leur laissait le droit de continuer à prier, de voilà, c'était pas le grand massacre des catholiques ou des musulmans. Il avait beaucoup de tolérance, en fait. Et effectivement, je trouve que par les temps qui courent, c'est intéressant de se replonger dans son histoire, parce que vraiment, pourtant on est au Moyen-Âge. C'était pas non plus le monde des bisounours au Moyen-Âge. On avait tendance plutôt à sortir son épée et à trancher des gorges. Et bah lui, non, il prenait une ville et il a même laissé des villes aux mains des musulmans. Enfin, des villes donc qu'il prenait. Il en était le seigneur, mais il déléguait la gestion de la ville aux musulmans qui étaient déjà là. Et ils étaient ravis. Et ça se passait très très bien.
Et donc dans ce récit géographique, historique, culturel, politique, se greffe aussi une autre veine, c'est la veine personnelle, Marc Fernandez, parce que vous allez à Valence, à quelques encablures de là où est née votre mère et où vit encore une partie de votre famille.
J'ai quasiment 80% de ma famille qui est encore là-bas. C'était aussi ça qui était intéressant. Dans chaque ville d'Espagne, il y a une rue ou une avenue du Cid. À Valence, elle est d'autant plus intéressante que, voilà, ça a été le prince de Valence pendant plusieurs années. Et oui, il y avait ce côté de l'histoire familiale, d'autant que mes grands-parents ont des noms de famille qui datent de l'époque du Cid. Enfin, j'ai pu faire quelques recherches généalogiques. Et ma grand-mère, son nom de famille, c'est Rodrigo. Bon, il s'appelait Rodrigo, le Cid. On n'est pas des descendants du Cid. J'ai tenté quand même. J'avais ce petit espoir de me dire... Je vais faire une recherche et peut-être qu'on est des descendants du Cid. Et là, ça va être complètement autre chose. Mais malheureusement, non. Mais en tout cas, voilà, le nom de famille de ma grand-mère est lié au Cid. Le nom de famille de mon grand-père, qui est Romaguera, est lié à... C'est voilà, c'est prouvé que ce sont des noms qui datent du XIe siècle en Espagne. Donc il y avait ce côté-là, et puis voilà, c'est une tellement belle ville que ça permettait aussi d'en parler un petit peu. Et on oublie Madrid et Barcelone et on se penche sur cette ville méditerranéenne qui était vraiment la ville rêvée du Cid. Enfin, ça faisait des années et des années qu'il avait cette ville en ligne de mire et il a mis une dizaine d'années avant de la conquérir.
Donc il y a une forme de retrouvaille aussi avec l'histoire familiale et l'histoire personnelle. Ouais. Même si vous connaissez bien cette Espagne, il y a quelque chose quand même qui s'est articulé avec cette aventure.
Ouais, complètement. Moi j'ai découvert un autre pays, vraiment quoi. Cette diagonale du vide était magnifique et troublante en même temps parce que. Voilà, la fosse franquiste, il y avait des petits villages où il y a 4 habitants avec des noms qui, quand on connaît un peu l'histoire de l'Espagne, enfin la rue Primo de Rivera, qui est quand même un général proche de Franco, enfin des choses comme ça, et c'est là où je me suis rendu compte vraiment, mais du coup physiquement et visuellement, que l'Espagne est loin, mais loin, loin d'avoir fait son travail de mémoire par rapport à la dictature, et il y a encore du boulot, et du coup, en plus, quand j'étais sur la route, il y a eu les élections en Espagne. Avec l'arrivée de Vox, le parti d'extrême droite, à l'Assemblée nationale. Et c'est très troublant aussi. Moi, je comprenais pas. Je dis, mais les gens vont pas voter pour un parti d'extrême droite alors qu'ils ont eu 45 ans de dictature il y a pas si longtemps. Et en fait, en traversant cette Espagne-là, j'ai compris. J'ai dit, voilà, oui, effectivement, bah, y a des gens, ils vivent encore un peu là-dedans, quoi. Et du coup, ça m'a moins surpris qu'ils aient une trentaine de députés à l'Assemblée. Et en même temps, ça a fait assez peur, parce que 45 ans de dictature, ça laisse quand même des traces. Mmh. Et c'est un voyage qui est, c'est un voyage dans le temps. Et c'est un voyage aussi dans le présent et dans le futur. Ça permet de porter un regard sur l'Espagne que j'avais pas avant.
C'est un livre aussi pour vos enfants ?
Ouais, évidemment, parce que ils étaient. Quand je suis parti, ils étaient un peu admiratifs. Mon fils, quand il a vu mon vélo, il voulait monter dessus et il m'a pris pour un chevalier et en même temps quand ils seront un peu plus grands, oui, j'espère qu'ils le liront parce que ça permettra qu'ils aient un bout de l'histoire familiale et de l'histoire de leur pays puisque c'est aussi leur pays puisqu'ils ont aussi la double nationalité. Voilà, à lire et ils étaient super fiers. Ma fille était en parle à l'école, elle m'a fait venir dans sa classe pour en parler. Bon, mon fils est plus jeune, là il a 6 ans. Quand je suis rentré, il a vu l'état de mes mains et pendant 6 mois, il m'a appelé Monsieur Playmobil. Voilà, il était super fier en fait. Et quand je lui ai dit, je vais peut-être vendre le vélo, il voulait pas. Du coup, j'ai gardé le vélo.
Tornado.
Ouais, voilà.
Comme le cheval de Zorro.
Ouais, il était super fier que je l'ai appelé Tornado parce que je lui ai montré moi Zorro et tout. Il s'appelle Diego, mon fils, donc comme le fils du Cid, comme Zorro, comme Don Diego de la Vega, c'est son déguisement préféré, il a pas de Spider-Man, machin. Quand il faut se déguiser à l'école, il met déguisement de Zorro, donc il était super fier. Mais oui, c'est aussi pour mes enfants, mais pour mon épouse, et puis pour mes parents aussi, pour toute la famille. Maintenant, j'espère qu'il sera traduit en espagnol pour que le côté espagnol de la famille puisse le lire, c'est mon livre le plus personnel, et je pense que j'en ferai pas un autre comme ça, ça c'est sûr.
Comment ça pourrait s'appeler, le nouveau western en espagnol ?
C'est une bonne question. El nuevo western, mais ça marchera pas. Alors ça, j'en reviendrai vous le dire quand on aura trouvé un titre. Je pense que je sais pas. El nuevo western, ça marchera pas. Je pense, mais je sais pas.
À voir donc. Merci beaucoup, Marc Fernandez.
Merci, Catherine.
Je rappelle le titre de ce récit à la croisée de l'histoire, de la géographie, de la politique, de l'amour personnel et de la littérature. Le nouveau western, donc, qui est apparu aux éditions Paulsen.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. En sol majeur,